Je tiens à saluer aujourd'hui plus spécialement nos camarades venus d'autres pays. Depuis 41 ans que la fête existe, nous avons toujours voulu accueillir des groupes, des organisations qui se revendiquaient de la révolution sociale, même s'ils ne partageaient pas toutes nos idées. Au fil du temps, le nombre de ces groupes s'est réduit du fait d'un recul général du mouvement révolutionnaire. Mais nous sommes toujours heureux de leur présence, heureux de pouvoir discuter avec eux à l'occasion des forums de la zone politique ou sur leur stand. Notre fête n'est pas seulement celle de lutte ouvrière, mais aussi celle de l'Union communiste internationaliste, notre famille politique internationale, dont font partie des camarades qui militent dans des pays aussi divers que les Antilles dites françaises, les États-Unis, Haïti, la Côte d'Ivoire, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Réunion, la Turquie. Malgré l'éloignement géographique, malgré les conditions différentes dans lesquelles militent les uns et les autres, tous les camarades de ces différentes organisations partagent les mêmes idées et militent sur le terrain du communisme révolutionnaire, de l'internationalisme. Oui, nous sommes heureux de leur présence, non seulement parce que cela nous permet de partager des expériences avec des camarades qui militent dans d'autres conditions que les nôtres, dans des conditions politiques et parfois matérielles plus difficiles, mais aussi et surtout parce qu'on ne peut pas être communiste révolutionnaire sans raisonner sur les idées, les programmes, dans un cadre international. Hier, j'ai parlé de la situation politique en France, après l'élection présidentielle, après l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir, et des tâches pour notre organisation dans la période qui vient. Dans l'immédiat, nous avons à terminer la campagne électorale des élections législatives. Les quelques 552 candidats de lutte ouvrière se présentent pour défendre dans leur circonscription le programme de lutte que j'ai défendu dans la présidentielle. Mais ils se présentent en même temps pour assurer la présence, la permanence du courant communiste et par là même pour contribuer à la reconstruction d'un parti communiste révolutionnaire présent dans la classe ouvrière et capable de gagner la confiance des travailleurs. Je réitère donc mon appel à voter et faire voter pour les candidates et candidats de lutte ouvrière, mes camarades. Mais notre classe sociale n'est pas seulement le prolétariat de France, mais le prolétariat international. Dans nos prises de position sur les événements d'actualité dans d'autres pays, nous nous posons toujours le problème de ce que pourrait être, de ce que devrait être une politique pour le prolétariat dans le pays en question. Et nous ne nous limitons pas à l'expression d'une solidarité. Nous avons par exemple considéré que la révolte dans un certain nombre de pays arabes, en particulier en Tunisie et en Égypte, était l'événement majeur du début de l'année dernière. Mais si les masses, en se mettant en mouvement, ouvrent la voie d'une situation révolutionnaire et d'un changement de société, elles ne font que l'ouvrir. Le prolétariat peut et doit intervenir dans les périodes de lutte de classe aiguë pour renforcer sa position au sein de la société. Si le mouvement est assez profond, si la détermination des masses est suffisante, il peut aller bien plus loin, jusqu'à la révolution, jusqu'à la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Mais pour avancer vers la révolution, le prolétariat doit être conscient de ses propres intérêts politiques. Il doit être préparé à se battre pour prendre le pouvoir et s'en servir pour prendre la direction de l'économie et de la société. Or, à peine les masses mises en mouvement en Tunisie et en Égypte, on a vu avec quelle rapidité s'est constituée une sorte de coalition qui allait des petits bourgeois démocrates de ces pays jusqu'aux dirigeants du monde impérialiste qui se félicitaient d'autant plus bruyamment de la révolution arabe qu'ils voulaient l'étouffer avant qu'elle puisse s'approfondir, avant qu'elle mette en cause non seulement Ben Ali et Moubarak, mais aussi l'armée, l'appareil d'État. Et surtout, avant que les masses pauvres s'en prennent à l'organisation économique qui écrase les ouvriers et les petits paysans de ces pays pour enrichir la classe privilégiée locale et au-delà, le grand capital impérialiste. Le prolétariat n'a pas pu jouer pendant ces événements un rôle autonome en Tunisie et en Égypte. Le bilan, au bout d'un an, c'est bien sûr la chute des dictateurs Ben Ali et Moubarak. Mais non seulement les exploités de ces deux pays n'ont pas pu toucher aux inégalités sociales, à la pauvreté, mais les rêves de démocratie eux-mêmes se sont limités à ce qu'à l'élection présidentielle en Égypte, présentée par tout le monde comme l'expression de changement démocratique, s'affronte un ex-général, le dernier premier ministre de Moubarak, et un représentant du mouvement islamiste réactionnaire, les frères musulmans. Et le comble, c'est que chacun se revendique de la révolution. Alors, pour revenir à notre internationalisme, eh bien il est basé sur la conviction qu'on ne peut détruire la société capitaliste actuelle et créer une forme d'organisation sociale supérieure, la société communiste, qu'à l'échelle internationale. Un des aspects les plus pesants du recul réactionnaire est le recul de l'internationalisme dont était porteur dans le passé le mouvement ouvrier révolutionnaire. Que n'a-t-on entendu de stupidité réactionnaire à ce propos pendant la campagne de l'élection présidentielle ? Je ne parle même pas des insanités proférées par les duétistes de droite et de l'extrême droite, mais de tout ce qu'on a entendu sur la démondialisation, le protectionnisme, le repliement national présenté par certains dirigeants de gauche comme des idées progressistes. La mondialisation, c'est-à-dire l'intégration, y compris des régions les plus reculées de la planète dans l'économie mondiale, la division du travail qui insère les différentes économies nationales dans une économie mondiale unique, constitue le principal facteur de développement de l'humanité. C'est cette évolution-là qui a fait sortir l'humanité du Moyen-Âge et qui a été à la base de la révolution industrielle et de tous les progrès scientifiques et techniques, de toutes les transformations de la vie sociale. Alors bien sûr, le maître d'œuvre et le principal profiteur de cette mondialisation, c'est la classe capitaliste. La mondialisation s'est développée sur la base des rapports sociaux capitalistes, sur la base des rapports d'exploitation. Et elle est imprégnée, bien sûr, d'inégalités, d'oppression dans les moindres aspects de la vie économique et sociale. La mondialisation a fait du monde entier une arène où se déploient toutes les caractéristiques de l'économie capitaliste. La course au profit privé, la concurrence, les rivalités, les guerres économiques. La mondialisation capitaliste, c'est l'impérialisme. La mainmise de la grande bourgeoisie d'une douzaine de pays industriellement développés sur les deux tiers sous-développés de la planète. C'est le pillage et l'oppression qui vont avec. Alors, le problème n'est pas de supprimer la mondialisation, c'est-à-dire les multiples liens économiques et humains tissés entre les différentes régions du monde depuis des siècles, c'est de supprimer les rapports sociaux capitalistes. L'avenir n'est certainement pas un impossible retour en arrière. Et d'ailleurs, jusqu'où ? Jusqu'à l'homme de Cro-Magnon ? La proposition de supprimer la mondialisation est aussi stupide que celle de supprimer la gravitation. L'humanité n'a pas appris à maîtriser le vol en supprimant la gravitation. Elle l'a maîtrisée en l'utilisant. Eh bien, dénoncer la mondialisation permet à tous ces gens d'éviter de dénoncer le capitalisme et surtout de le combattre. Quant au protectionnisme, une de ses formes les plus intolérables consiste à prétendre protéger les exploités d'un pays contre les exploités d'un autre. En réalité, il faut se protéger du grand capital qui exploite et les uns et les autres. Alors oui, lorsque le manifeste communiste affirma, il y a plus d'un siècle et demi sous la plume de Marx et d'Engels, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ce n'était pas une simple prise de position morale, ni l'expression de la seule solidarité. C'était une manière d'exprimer que c'est seulement en unissant leurs forces à l'échelle du monde que les travailleurs peuvent combattre efficacement le capitalisme, exproprier la bourgeoisie, mettre les moyens de production à la disposition de la collectivité pour gérer en commun et de façon démocratique les richesses de la planète. L'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire se confond avec celle des internationales. Et lorsque, pour la première fois dans l'histoire, les travailleurs russes ont conquis le pouvoir politique, leur objectif a été d'œuvrer pour que la révolution se propage à d'autres pays. C'est précisément parce que le prolétariat allemand, entraîné dans la révolution par les travailleurs russes, ne réussit pas à conquérir et à garder le pouvoir, que la révolution resta isolée dans le pays pauvre qu'était la Russie, entraînant la bureaucratisation du pouvoir ouvrier. La dégénérescence de la Russie soviétique, le stalinisme, ont été en quelque sorte la démonstration par la négative de cette conviction commune à Marx, Lénine et Trotsky. Cette conviction que l'émancipation sociale, la révolution communiste ne sauront vaincre et se consolider qu'à l'échelle internationale, qu'avec la mondialisation de la révolution. Ouais. Si je tiens à rappeler à quel point on ne peut être communiste qu'en étant internationaliste, c'est que nous vivons à une époque où toutes les idées fondamentales du mouvement ouvrier révolutionnaire ont été dénaturées, transformées en leur contraire jusqu'à l'absurde. Pourtant, grâce au progrès de la science et des techniques, jamais la planète n'a été aussi petite. Les déplacements des hommes se font à la vitesse de l'avion. Les informations se transmettent à la vitesse de la lumière dans des systèmes informatiques interconnectés. Grâce à la télévision, on connaît la vie et les conditions d'existence de peuples perdus dans les coins reculés de la planète. Le téléspectateur, installé dans son fauteuil, peut suivre les rebondissements de la guerre civile en Syrie, mieux même que les habitants de ce pays. Les grands problèmes de l'humanité, le réchauffement climatique ou la pollution des mers, ne peuvent trouver leur solution que par la collaboration internationale. Et pourtant, c'est justement à une telle époque qu'on élève des murs, qu'on érige des barbelés pour séparer les peuples, pour empêcher la circulation des hommes. La pire des barrières n'est cependant pas matérielle. Les États-Unis ont beau avoir dressé des barbelés et des murs tout au long de leurs frontières avec le Mexique, le nombre d'hispano-américains ne cesse de croître, au point que l'espagnol est en train de supplanter l'anglais comme première langue dans le pays. L'État d'Israël a beau élever un mur et des barbelés en Palestine, en morcelant le territoire minuscule concédé aux Palestiniens et en le coupant de l'Égypte voisine, il ne peut pas empêcher le percement de tunnels passant dessous. Tous les navires de guerre qui quadrillent la Méditerranée ne peuvent empêcher des milliers de femmes et d'hommes, chassés d'Afrique par la misère et les guerres, de traverser la mer au péril de leur vie. Mais il y a aussi les barbelés qu'on essaye d'ancrer dans nos têtes, en prétendant que la crise, le chômage, les délocalisations sont la faute des travailleurs d'autres pays plus pauvres et que c'est d'eux qu'il faut se défendre. Ou pire encore peut-être, tenter, ici même, en France, d'opposer les travailleurs les uns aux autres en fonction de leurs origines, quand bien même ils vivent dans les mêmes quartiers populaires et travaillent côte à côte sur les mêmes chaînes de production. Là encore, notre solidarité vis-à-vis des travailleurs immigrés, qu'ils aient ou non des papiers, n'est pas seulement une question de solidarité. Parce que les travailleurs immigrés, c'est une partie de la classe ouvrière, c'est une partie de nous. Ceux qui travaillent, qui produisent, créent bien plus que leur propre part de richesse. Ils créent aussi la part qui leur est volée pour assurer le profit des propriétaires et des actionnaires, leurs exploiteurs. Le problème ne vient pas de ceux qui travaillent, mais des exploiteurs qui parasitent leur travail et qui fabriquent des chômeurs. Si cette société, dominée par la bourgeoisie, rend si compliquée l'intégration des travailleurs immigrés, ce n'est pas parce qu'ils sont immigrés, c'est parce qu'ils sont des travailleurs. Quand on a de l'argent, quand on est milliardaire russe ou riche notable du Qatar, on n'a aucun problème d'intégration. On peut s'acheter un club de foot, des casinos ou des hôtels de luxe, des titres de journaux ou des chaînes de télévision. Ceux qui sont rejetés dans des ghettos sont des travailleurs. Les politiciens de la bourgeoisie qui s'étripent autour de la question du droit de vote des immigrés ont bien des leçons de démocratie à prendre du côté du monde du travail. Parce que dans une grève, eh bien on ne demande pas aux travailleurs immigrés de montrer leurs papiers pour participer aux décisions. Ouais. Et demain, lorsque les travailleurs se mettront en mouvement pour défendre leur droit à l'existence, il est de l'intérêt de tous que l'origine, la situation légale, la religion des uns et des autres n'entrent pas en ligne de compte, parce que nous aurons besoin de toutes nos forces. La crise économique actuelle montre à quel point le destin des peuples est lié. Aucun des rebondissements de la crise financière n'a été arrêté par les frontières nationales. Les dirigeants du monde impérialiste, tout en jouant sur la démagogie nationaliste, sont parfaitement conscients de l'interdépendance totale des économies nationales. Regardez comment ils s'affolent devant la situation en Grèce. Ils ont couvert, cautionner les agissements de leurs grandes banques qui ont vidé ce pays de son sang avec des prêts à des taux usuraires. Mais aujourd'hui, ils craignent qu'une faillite de l'État grec entraîne des réactions en chaîne, des faillites des grandes banques trop engagées en Grèce, avant que ces faillites bancaires entraînent la déconfiture des États plus faibles, l'Espagne, le Portugal et peut-être l'Italie et la France. Pendant toute la campagne électorale, on nous a joué la comédie de la différence qu'il y aurait entre la politique de Sarkozy et celle de Hollande. C'est ainsi qu'on a opposé la politique libérale de Sarkozy, partisan d'une politique de rigueur pour assurer le remboursement des dettes de l'État, à celle de Hollande, partisan de mesures en faveur de la croissance. Et de claironner, après le sommet du G8, que Hollande a su tellement bien vendre sa politique de croissance que tous les chefs d'État ont fini par partager ses vues. Toute cette discussion est parfaitement ridicule. Comme si les chefs politiques du monde capitaliste avaient besoin de Hollande pour être partisans de la croissance, expression par laquelle ils entendent croissance des marchés, des ventes et des profits. Tous leurs problèmes, aux uns et aux autres, c'est que l'économie capitaliste est en crise. Ils ont beau implorer, ensemble ou séparément, le dieu de la croissance, l'économie capitaliste en crise ne donne que ce qu'elle peut donner. Les dirigeants politiques n'en sont absolument pas maîtres. Ils ne peuvent pas décréter la croissance économique. Ils ne peuvent que prendre dans les caisses de l'État de quoi permettre aux groupes capitalistes de sauvegarder leurs profits. La divergence entre Hollande et Sarkozy sur la croissance et l'étatisme est une divergence inventée. La centaine de milliards d'euros débloquée en 2008 par Sarkozy pour éviter aux banquiers de sombrer dans une crise bancaire, qu'est-ce sinon de l'étatisme? Où est la différence entre la politique de l'ancienne majorité et celle de la nouvelle par rapport à la dette? Les deux insistent sur la nécessité de se soumettre aux raquettes des banques, quitte à saigner les classes populaires qui ne sont pour rien dans cette dette, mais qui sont quand même conviées à payer, et le principal, et ses intérêts. Seulement voilà, Plus les gouvernements imposent des mesures d'austérité pour satisfaire les banquiers, plus ils réduisent la capacité de consommation des classes populaires et plus ils réduisent le marché. Il y a pourtant les mêmes groupes financiers ou industriels qui agissent, tantôt comme producteurs de biens matériels, tantôt comme spéculateurs financiers, et plus généralement comme les deux en même temps. Soigner les banquiers est contradictoire avec la relance du marché de la consommation. Mais la bourgeoisie tentera de nous imposer les deux, des mesures d'austérité en même temps qu'une politique inflationniste de hausse de prix. Eh bien, les affaires de la bourgeoisie seront peut-être sauvegardées ainsi, mais ce n'est pas comme cela que les intérêts des travailleurs seront préservés. Le capitalisme, c'est aussi l'impérialisme. Il n'est pas lié à la personnalité ou à l'étiquette politique des dirigeants politiques. La presse s'est émerveillée de la facilité avec laquelle Hollande, à peine élu, s'est intégré dans la joyeuse bande qui s'est retrouvée à Washington, puis à Chicago, dans le cadre du sommet du G8 d'abord, puis de l'OTAN. Aller voir se taper sur le ventre, faire copain-copain, plaisanter sur la cravate de l'un ou de l'autre, on aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. En fait, c'est parce qu'ils sont rigoureusement interchangeables et que la politique qu'ils mènent dépasse leur petite personne. S'il y a un domaine dans lequel le changement de l'équipe gouvernementale ne représente pas une rupture, c'est bien la politique impérialiste. Hollande a rencontré ses semblables des autres grandes puissances avec les dossiers préparés sous la présidence de son prédécesseur, par les mêmes services ministériels, par les mêmes hauts fonctionnaires qui, eux, bien sûr, ne sont pas élus. Et que de bruit médiatique également, autour de la décision de Hollande de retirer les troupes françaises d'Afghanistan avant la fin de l'année. Comme s'il lui avait fallu beaucoup de courage pour convaincre tous les dirigeants du monde impérialiste, alors que les États-Unis eux-mêmes ont annoncé le retrait de leurs troupes, non parce qu'Obama serait un grand pacifiste, mais parce qu'il devient de plus en plus évident que l'intervention des troupes occidentales en Afghanistan est un fiasco complet. Il coûte cher pour pas grand-chose. Les talibans, contre lesquels les troupes occidentales prétendent intervenir depuis 10 ans, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, n'ont jamais été aussi forts. Les troupes d'occupation ne sont pas bien vues dans aucun des pays du monde. Celles des puissances impérialistes le sont d'autant moins qu'elles n'ont rien apporté à la population. Pas même un peu de droit et de liberté démocratique, encore moins de moyens matériels pour combattre la pauvreté. Elles ont, en revanche, apporté leurs intrusions armées dans les villages, leurs dégâts collatéraux qui ont ajouté les horreurs de la guerre au malheur de ce peuple, un des plus pauvres de la planète. Alors, la seule originalité de Hollande, c'est de se retirer de ce bourbier un peu plus tôt que les Britanniques ou les Américains, mais un peu plus tard que les Canadiens. Et encore, il ne s'agit que de rapatrier les seules troupes combattantes. Même si l'armée française se retire d'Afghanistan, je rappelle qu'elle reste largement présente sur le continent africain. La France impérialiste considère que ses anciennes colonies constituent encore son arrière-cour et qu'elle a le droit d'intervenir pour changer le chef d'État, comme elle l'a fait l'année dernière en Côte d'Ivoire ou comme au Gabon, pour maintenir au contraire la dynastie Bongo au pouvoir, avec l'intronisation du fils après la mort du père, grâce à des élections truquées. Alors, que valent les discours de l'équipe socialiste sur la fin de la France-Afrique, ce tissu de complicité entre les dirigeants de l'impérialisme français et les dirigeants locaux, afin d'assurer à la bourgeoisie française la priorité pour piller ses anciennes colonies d'Afrique? Et puis, rappelons que si le Parti socialiste n'était pas au pouvoir au moment des bombardements de la Libye, il ne s'y est pas opposé non plus. Sarkozy a pu faire bombarder la Libye sous les applaudissements des dirigeants du Parti socialiste. Un an après, le bilan de cette intervention contre la Libye est aussi un fiasco. Le peuple libyen a certes été débarrassé du dictateur Kadhafi, tant bichonné par Sarkozy avant que ce dernier ne vire sa cutie. Mais le peuple libyen n'a pas eu droit pour autant aux libertés et à la démocratie. À la place de la dictature d'un seul homme, il a droit à celle de bandes armées rivales. Et dégâts collatéraux, comme aiment à le dire les généraux, la déstabilisation s'est propagée aux pays voisins, en particulier au Mali. Eh bien, nous sommes fiers d'avoir été de ceux qui ont manifesté leur opposition au bombardement de la Libye, dont seuls Dassault et les marchands d'armes ont tiré profit. Ouais. Aucune intervention impérialiste n'a jamais apporté un progrès pour le peuple du pays où cette intervention avait lieu. Alors, abat toutes les interventions impérialistes, troupes françaises hors d'Afrique. L'impérialisme, ce n'est pas seulement les interventions militaires directes. Derrière combien de guerres locales, derrière combien de conflits ethniques, il y a les rivalités de groupes impérialistes pour mettre la main sur les richesses du pays pauvre, victime de ces manœuvres. Et derrière combien de famines, il y a les spéculations internationales sur les denrées alimentaires. Pour permettre aux actionnaires de quelques multinationales de l'agroalimentaire de prélever leur dîme sur la planète entière, on condamne des centaines de millions d'êtres humains, 900 millions, disent les statistiques officielles, à la sous-alimentation permanente. L'humanité a la capacité de satisfaire largement les besoins en nourriture, en médicaments de tous les hommes de la planète. Mais entre les besoins des populations et les capacités de production s'interpose l'organisation capitaliste de la société et son expression ultime, l'impérialisme. Alors non, le capitalisme ne peut pas être l'avenir de la société. Mais il ne disparaîtra pas tout seul. Il ne disparaîtra que lorsque le prolétariat international aura retrouvé, non pas sa capacité à se révolter, parce que cette capacité n'a jamais disparu, mais la conscience politique, c'est-à-dire la conscience non seulement de ses intérêts matériels immédiats, mais aussi de son rôle historique comme seule force capable de renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Cette conscience ne peut s'exprimer. Cette conscience ne peut s'exprimer que par des partis communistes révolutionnaires et à l'échelle du monde par une internationale, c'est-à-dire par un parti mondial de la révolution. Il est bien difficile de dire d'ici si l'énergie des masses égyptiennes, par exemple, était assez puissante pour aller plus loin que la situation actuelle. Pour le savoir, il aurait fallu que le prolétariat de ces pays commence à s'organiser indépendamment des autres forces sociales que la révolte a mis en mouvement. Il aurait fallu un parti communiste révolutionnaire capable de comprendre les rapports de force au sein de ces sociétés pour éviter les pièges successifs auxquels le mouvement s'est heurté et pour aller plus loin. Eh bien oui, l'absence d'un tel parti à des périodes où les classes exploitées n'en sont pas à se battre peut ne pas avoir de conséquences graves, mais lorsque les masses entrent en lutte, cela aboutit à des catastrophes. Cela semble très lointain, vu la faiblesse du mouvement communiste révolutionnaire partout dans le monde. Mais devant la faillite du capitalisme, les choses peuvent aller très vite. Et en réalité, la construction de partis révolutionnaires se confond avec celle d'une internationale révolutionnaire. Les deux nécessités n'en font qu'une. Alors, camarades, voilà nos perspectives. Elles sont celles du mouvement ouvrier révolutionnaire depuis sa naissance. C'est de ces perspectives que découlent notre politique et nos tâches au quotidien. Elles sont celles du mouvement ouvrier révolutionnaire depuis sa naissance. Nous les défendrons, même à contre-courant, car ce sont elles qui représentent l'avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de fête et surtout de nous retrouver dès demain dans nos entreprises, dans nos quartiers, pour mener les combats, petits et grands, de notre classe sociale. Ouais.
La raison commence au travers.